La messe commence comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur, Danaïlem, il est sauveur de son peuple. Le Seigneur, Danaïlem, est le sauveur de son peuple. On n'est pas seul. C'est quand on est dans la solitude du désert qu'il y a que c'est la tentation qui vient et le défi et la soif de signes. Mais lorsqu'on est tout un peuple, lorsqu'on est devant le Seigneur, quand on l'entend venir vers tout son peuple, il vient sauver son peuple, il vient chercher son peuple, traîner son peuple. Et son peuple, c'est tout entier, le visage tourné vers le Seigneur qui vient sauver tout son peuple. Le Père veut que tous les hommes soient sauvés. C'est comme ça la messe aujourd'hui. Et on disait toujours, ne nous laisse pas succomber dans la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous soumets pas à la tentation. Quand on dit ça dans notre Père, ça me fait penser à ça. Mais la tentation, elle vient du démon, elle vient de Belzéboul, le chef des démons, et tous les démons, ils sont très unis. Hein. Il y a une unité. Hein. Et la tentation s'adresse à tout le peuple. La tentation s'adresse à tout le peuple aussi. C'est à tous les hommes. Hein. Dès lors qu'ils sont disloqués, désunis. Et moi, je crois que les trois traductions sont bonnes parce que, évidemment, il faut que la tentation. Souvent, on entend des gens dire, mais il ne faut pas que la tentation. On ne demande pas que la tentation ne soit pas là. On demande simplement à ce qu'on n'y mette pas, qu'on ne court pas dans la tentation pour se plonger dedans, pour pouvoir faire le péché. Voilà, c'est ça qu'on demande. Et que ce mouvement extraordinaire par lequel nous plongeons dans la séparation de Dieu, que Dieu nous arrête quelque part et nous enlève cette intrépidité vers la tentation pour s'y complaire dans la tentation, pour y rentrer dedans. C'est par une grâce de Dieu qu'on est restitué, à pouvoir être dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Dieu, dans la révélation de Dieu, on est tourné vers Dieu, on ne tourne pas le dos. Si on tourne le dos, si on tourne notre visage, c'est beau, le prophète Jérémie aujourd'hui, ils m'ont tourné le dos. Au lieu de tourner leur visage et de m'écouter, c'est le peuple de Dieu qui tourne le dos. C'est vrai ça. On pourrait dire c'est chacun d'entre nous. Oui, dans la mesure où chacun d'entre nous, comme Jésus, comme Joseph, comme l'Immaculée Conception, le tabernacle du monde entier, le tabernacle du peuple de Dieu tout entier, inséparé. Hein. Il y a une unité. Ce que Jésus dit, Belzéboul. Si moi je chasse le démon et je rends l'humanité muette, si je la fais parler pour que tout le monde entende, pour que le Père entende la parole de son Fils et le souffle du Saint-Esprit en lui, C'est pas Belzébul qui fait ça. L'esprit. L'esprit de. Qui fait entendre. Qui fait entendre. Une parole muette, c'est un cri silencieux. Ça peut pas venir de Belzébul. Parce que si Belzébul, c'était le démon qui faisait l'exorcisme, si c'est le démon qui chassait le démon de notre humanité, ben ça voudrait dire qu'un démon chasse un autre démon. Et les démons, ben, ils se bagarrent les uns contre les autres. Et ça, c'est impossible. Parce qu'il y a un principe d'unité dans la création. Et les démons sont des anges. Et il y a un principe d'unité dans toute création, parce que c'est Dieu qui crée tout. Et Dieu crée tout à partir de là. Et si les démons ne sont pas dans l'unité, c'est que c'est une imagination. Les démons sont des créatures. Et donc, dire que l'Esprit Saint. Et Belzébul, c'est la même personne. Ça veut dire que vous avez vraiment tourné le dos. Ça veut dire que votre visage n'est pas tourné du tout. Vers la parole de Dieu. Vers le verbe de Dieu, vers Adonai Elohim. Écoutez, enfin. Écoutez la parole, écoutez. Il faut écouter, c'est sûr, la parole de Dieu, écouter Jésus, écouter le cri silencieux de Joseph. Écoutez, parce que Jésus est, qui vient à la fin du monde, vient donner au cri silencieux de Saint Joseph une parole que tout le monde entend. Ça devient audible dès lors qu'on est dans l'unité du peuple de Dieu. Tout entier, rassemblé dans l'église de la fin. C'est à la fin de la gloire de son apostolat que Jésus chasse le démon sourd et muet. C'est à la fin, c'est à l'accomplissement. Tout de suite après, oui, qu'est-ce qu'il va? Il rentre dans Jérusalem, il célèbre la messe. Et puis voilà. C'est à la fin. On a un jour de carême et on respecte le jeudi. Chaque jeudi est un jour qu'on respecte beaucoup parce que c'est le jour de l'hostie. Hein, donc c'est le jour où on pénètre à l'intérieur. De l'intimité du Verbe de Dieu dans l'hostie. Et on entend le souffle et la parole qui s'inscrit à l'intérieur de l'Église tout entière. Et nous accompagnons ce Verbe de Dieu, cette présence intérieure qui est dans l'hostie. Nous l'entendons marcher et aller parler. Et s'inscrire dans tous les êtres humains, dans le peuple de Dieu tout entier, dans l'unité de l'Église. L'Église, surtout à la fin, et toujours de toute façon, depuis le départ, est une. Et cette unité, elle est criante. Ce cri silencieux devient audible si nous entendons ce cri de Jésus dans l'hostie. Qui récapitule, qui vient retoucher, reprendre tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Dans la création de Dieu le Père. Dans une cri qui est rendu audible dans les cieux. Ce jour-là, c'est ce jeudi de carême. aujourd'hui, premier jeudi après l'Annonciation, après cet écoulement qui nous emporte hein, de la virginité préservée par Joseph, qui emporte l'enfant et la mère, avec cette virginité lumineuse, quoi, qui disparaît aux yeux de tous et pourtant elle est bien là en lui. Nous sommes emportés dans l'unité profonde du Christ silencieux Joseph qui porte l'unité de l'Église tout entière, mais dans le départ, dans le principe même. Et ça s'est inscrit hein, dans notre incarnation, hein, de l'Église d'incarner. On n'a pas le dos tourné vis-à-vis des autres. Notre visage est tourné vers tous, vers chacun. Pourquoi ? Parce qu'on veut bien pénétrer en chacun, avec celui qui pénètre tous les hommes. On veut bien avoir le visage tourné vers tous, dans l'unité de l'Église, dans l'unité de l'hostie, dans l'unité de notre vie, dans l'unité qui se fait entendre. Dans l'unité qui se fait entendre, c'est qui entend cette unité? Mais c'est le monde angélique, c'est l'unité du monde angélique, c'est l'unité d'une unique, le main glorié, lumière de gloire, la vision de la face du monde angélique, qui s'est enfin tourné vers et qui apprend à s'encloutir dans l'unité de l'Église. Dans l'unité du corps mystique vivant, de Jésus vivant, et le monde angélique entend le message, entend Adonai Elohim, dans le peuple de Dieu tout entier, en nous. Nous avons un ministre, nous avons un carême, un mouvement, une descente à l'intérieur du fond de la coupe, du fond de la coupe de l'Apocalypse, et parce que le fond de la coupe de l'Apocalypse, lorsqu'il commence à être voilà, investi par le peuple de Dieu, c'est les trois derniers sceaux de l'Apocalypse, c'est l'Église joannique dans laquelle le Saint-Père nous fait rentrer aujourd'hui, hein, c'est le premier jeudi après le mystère de l'Annonciation de l'année 2019, hein, il y a quelque chose de très particulier encore une fois aujourd'hui. Hein. Et pour échapper à cette pensée, mais franchement, mais complètement inouïe et tellement ridicule de ne pas être même capable de faire la différence entre le Saint-Esprit et Béelzéboul, alors qu'on est les scribes, quoi, les spécialistes de la parole de Dieu et de l'infaillibilité transmise par Dieu. C'est gros quand même, pour éviter cette grossièreté inouïe. C'est inouï. C'est pas seulement être son muet, là. C'est inouï. Et bien pour échapper à ça, le carême nous demande d'échapper à ce qu'il y a de plus petit, hein, minuscule, dans les tentations, c'est vrai, mais aussi à ce qu'il y a de plus énorme, de plus gros. C'est énorme. Si on est dans l'unité du corps, de l'âme, de l'esprit, de Dieu et de l'ange, dans l'hostie, si on est le peuple de Dieu lui-même, si je puis dire incarné, entendre, qui entend, et nous allons, nous courons, nous volons, et c'est l'Église tout entière à travers, qui vole vers Adonai Elohim, qui fait entendre sa voix éternelle et glorieuse pour la communiquer. Il y a un mouvement qui se fait dans l'Église tout entière et qui est mon mouvement. Et si j'ai un mouvement de vie chrétienne, c'est l'Église tout entière qui me le met à l'intérieur de moi. C'est la Jérusalem dernière qui est dans moi et s'établit elle-même en moi dans ce mouvement de la Jérusalem dernière. Et c'est de manière très incarnée que ça se fait. parce que ça se fait en plus dans une vastitude qui dépasse toute la création, hein, très, puisque c'est des espaces de vastitude qui embrassent aussi tous les espaces des univers de la résurrection. Et donc le monde angélique, lorsqu'il participe à ce mouvement qui vient jusqu'à nous, fait de nous les récepteurs de l'unité, hein, de ce mouvement du carême, de ce mouvement eucharistique, de ce mouvement qu'on a... Pourquoi ? Parce qu'on a entendu. On a tourné notre visage vers ce qui est intime, profond, profondément inscrit dans la personne qui se donne en entier à travers l'Église et s'identifie dans une unité totale avec la Jérusalem glorieuse, la Jérusalem dernière. Et aussi le peuple des enfants du Fils du Père tout entier, tous ensemble dans une Église, s'identifie pour épouser le mouvement de la foi dernière. Il y a l'effort du carême, c'est évident que c'est un effort de fou pour n'entendre plus que ce que fait le peuple de Dieu tout entier à la fin dans la foi, et pour en être le cri silencieux mais audible dans le sein des saints de la paternité de Dieu. J'aimerais beaucoup expliquer un peu. J'aimerais beaucoup expliquer le miracle des trois éléments. Voilà cette unité. Les démons, ils sont bien dans l'unité aussi, tous ensemble. Sinon, ils partent en désagrégation, en évaporation immédiatement. Tous les démons sont ensemble dans une unité. Mais l'unité. Pour y échapper, l'unité du carême, l'unité qui se fait pendant le carême, l'unité qui s'opère réellement pendant le carême, est beaucoup plus puissante, des centaines de fois plus puissante au centuple que l'unité de tous les démons ensemble. Et si féroce qu'il soit, je veux dire, si perfide, si pénétrant qu'il soit, il faut aller jusqu'à cette unité, il faut évangéliser l'unité. Comme dit Saint-Père, il faut évangéliser l'unité. Pas seulement évangéliser les pensées. Évangéliser les pensées, c'est pas suffisant. Le démon pénètre les pensées comme il veut, là, on est perdu, hein, si on s'arrête à évangéliser les pensées. Il a raison, le pape François. On n'évangélise pas nos méditations. C'est bien qu'on le fasse, c'est très bien. Mais notre capital de vie est mobilisé pour évangéliser. La création tout entière, c'est-à-dire la nostalgie profonde de la créateur, de la créateur inscrit dans la création tout entière, qui veulent la révélation des fils de Dieu dans l'unité avec Dieu, et dans l'unité avec l'éternité, dans l'unité terminale, dans l'accomplissement de l'acte pur. Cette nostalgie-là, il faut l'évangéliser, c'est-à-dire il faut inscrire cette bonne nouvelle dans le peuple de Dieu tout entier. Dans la création tout entière, baptisez-les. Allez, proclamez la bonne nouvelle à tout l'univers. Et baptisez tous les hommes dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, on aimerait tellement expliquer la spiritualité du carême dans le miracle des trois éléments, la Sainte Famille, qui est le lieu vraiment de cette ascension extraordinaire, où on tourne le dos à tout le monde ancien, dans un monde nouveau, et qui recueille, rassemble mais dans l'unité, la création tout entière est le seul endroit où, c'est, où on est tous rassemblés, la création, l'humanité tout entière. Les chrétiens, les pas chrétiens, tout le monde. C'est ça. C'est la Sainte Famille. Et dans sa source en plus. Alors, il faut simplement tourner notre visage vers. Pas tourner le dos, tourner notre visage vers. Sortir du désert de notre solitude. Mais notre solitude, elle est bonne, hein, si elle nous permet de courir vers sa signification profonde. Et la signification responsable de la solitude, c'est la responsabilité, la signification profonde et incarnée de la solitude de l'homme, du cœur de l'homme, c'est la signification responsable de cette solitude. C'est pour nous faire tourner, nous retourner, nous convertir et tourner notre visage vers Saint-Joseph qui est la source à l'intérieur de Dieu, de la responsabilité assumée. Et on tourne notre visage et on se laisse prendre. On se laisse prendre dans le corps originel de Saint-Joseph, dans notre corps originel. Combien de fois on l'a dit ça? Combien de fois le Saint-Père nous le donne à comprendre? À ce moment-là, on a notre visage tourné vers. Il n'y a pas un seul humanité, il n'y a pas une seule humanité qui que nous ne voulions faire vivre. Nous sommes là pour donner la vie au monde entier. Et ça se fait que dans la coupe de la fin que c'est possible dans l'incarnation et la réalité de cette opération admirable de l'Église tout entière. Le Seigneur vient sauver son peuple. C'est admirable. Et se laisser prendre par Saint-Joseph, c'est trop beau, hein, le papa de la signification responsable de tout le peuple de Dieu. Et de chacun d'entre nous, et de chaque être humain créé par Dieu. Ça me fait penser à mon grand-père. Mon grand-père, il était amoureux, mais fou, mais vraiment, ça était touchant. De ma grand-mère, ça c'est sûr. Et jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort. Et voilà, ils avaient eu 14 enfants. Et voilà que par la grâce de Dieu est conçu. Dieu est venu en eux et ils ont conçu le 15e. Alors, mais ils étaient très, 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 très. Ils ont conçu le 15e. Alors, arrivé au dernier jour pour la naissance, oh, ils savaient qu'il était là, hein, ils étaient présents à ce 15e depuis la conception, ça, vous pouvez être sûr. Et donc voilà, ils donnent. Le Sacré-Cœur de Jésus et Saint-Joseph, c'était tout pour mon grand-père. Et ma grand-mère, elle se jouissait délicieusement avec lui de cette grâce qui leur a été commune. Et donc l'enfant a été conçu. Alors, bien sûr, déjà à cette époque-là, parce que c'est l'esprit du monde, c'est une tentation. Le médecin vient dire, voilà, l'enfant n'est sûrement pas bien. Donc, et en plus, la maman est très. Médicalement, c'est impossible. C'est impossible. C'est biologiquement, enfin, c'est impossible. La maman va mourir si cet enfant est mené à terme. Donc, il parle avec mon grand-père. Mon grand-père dit, voilà, c'est... Malheureusement, c'est... Alors, si l'enfant vient à terme, c'est la mère qui faudra... qui disparaîtra. Si on peut pas, ça peut pas être autrement, malheureusement. Alors, moi, je suis obligé de vous en parler. Alors, mon grand-père a dit à ma grand-mère, a dit au médecin. C'est comme s'il parlait à ma grand-mère. Hein. Il avait le tournage. Vous êtes toujours tourné vers elle et en elle, de toute façon. Hein. Il dit, mais enfin, docteur, nous nous sommes là pour donner la vie. Pas pour la supprimer. Ça l'avait scandalisé, mon grand-père. Scandalisé. Que mes saints puissent lui suggérer qu'il n'était pas là pour donner la vie. Mais lui, c'était payé pour supprimer la vie. Il dit, mais on va bien avoir recours à votre aide pour nous aider à donner la vie, pas pour supprimer la vie. Un être humain, ça ne se supprime pas. Et on l'a appelé Emmanuel, c'est le plus gentil des 15.
Elle est morte. Non, elle n'est pas morte, bien sûr que non.
Et non, parce que dans la spontanéité, ce qu'il oublie, ça, c'est dans la spontanéité. Il y a des cellules séminales sponsales qui supplient. Il y a le troisième barat, mais ça, il ne le sait pas. Dans la grâce, on porte et on donne la vie à un qui peut apporter la vie du monde entier. Il ne le sait pas, le médecin, ça. C'est un tueur à gage, donc il est payé pour... c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, tous les corps de métier du monde de Belzéboul, tous sont des tueurs à gages, tous. Le juge est un tueur à gages. Il est payé pour condamner celui qui ne va pas faire un avortement. Ou qui conseille à quelqu'un de ne pas faire un avortement. Il est payé pour ça, pour le mettre en prison. Vous prenez n'importe quel corps de métier, le politique, le député. Il est payé grassement pour supprimer des vies humaines par la loi. Donc les vies humaines commençantes, bien sûr, les vies humaines les plus dignes, les plus divines, les dons, les paroles de Dieu sur la terre, celles que le monde entier entend à chaque fois. Oh, c'est hâte. Pour n'importe quel corps de métier, ce sont des tueurs à gages, n'importe lequel. Sinon, on ne les paye pas, c'est pas compliqué. Les banques, les pharmacies, les usines pharmaceutiques, c'est pourquoi ça? Ils ont payé pourquoi? Les laboratoires, les chercheurs, les savants. Quel est le corps de métier? Quel est le corps de métier? Ils sont pas largement payés pour supprimer la vie. Et mon grand-père disait, mais nous nous sommes là pour donner la vie. Je trouve incroyable que vous me disiez une chose pareille. On donne la vie, puis c'est tout. Il n'y a pas l'ombre on est des êtres humains. Mais je dis, mais très bien, on donne la vie. Jésus est venu pour donner sa vie. Alors à ce moment-là, s'il y en a un qui donne sa vie, c'est l'unité de l'Église qui reconstitue en un seul instant et qui avance d'un pas vers la Jérusalem glorieuse. Ah, putain. Tu croyais que quoi? Alors, mon grand-père, c'est une petite anecdote, ça n'a rien à voir avec le carême, mais N'empêche que mon grand-père et ma grand-mère, lorsqu'ils sont décédés, j'ai fait l'enterrement de ma grand-mère, eh bien, il n'y avait pas 15 enfants, il y avait 153 descendants vivants directs, dont j'étais moi le seul prêtre d'ailleurs, et donc j'ai célébré la messe. Il y avait 153 descendants vivants directs qu'ils ont laissés sur la terre. Puis après, on les a mis dans le cimetière de l'île Jourdain. Et vous savez, il y a eu un moment, il y a eu des cimetières où on ne respecte ni la vie ni la mort. Donc on détruit les cimetières, on fait des sacrilèges au cimetière, on fait des sacrilèges carrément. On vient faire un sacrilège contre Dieu dans un cimetière. Voilà, alors il y avait eu Carpentras, puis c'était un cimetière. Et puis la première fois qu'on entend parler d'un cimetière qui est comment est-ce qu'on appelle ça,
profané,
c'est le cimetière de mon grand-père, de ma grand-mère, et la première fois, c'est la première fois qu'on a un peu parlé à la radio, que tiens, il y avait un cimetière qui n'était pas... Et pourquoi? Parce que la profanation était sérieuse, hein, c'était vraiment... Et il y a 153 tombes qui étaient ouvertes, renversées, toutes les croix brisées, mises en envers, toutes 153 tombes. Et au milieu, c'est de mon grand-père et de ma grand-mère. Le démon n'a pas pu s'approcher. Et ils avaient laissé 105. C'est un petit signe quand même. C'est la famille. L'unité de la famille, c'est l'unité de la Sainte Famille. Parce que l'unité de la Sainte Famille, Sacré-Cœur de Jésus, rentre dans l'unité de la famille. Ben, de là, s'épanouit l'Église de la Jérusalem dernière. Automatiquement, tout le monde angélique est là. Les démons s'écartent, ne peuvent pas s'approcher. Chaque vie humaine est un miracle, chaque vie humaine, chaque histoire humaine est un miracle, Bon, mon grand-père, c'est clair, mais chacun a fait le même miracle s'il tourne comme ça. Le carême, c'est bien ça, c'est le carême qui nous est demandé dans le cœur eucharistique de Jésus d'y pénétrer et d'entendre. Écoute ce mot. Dans le miracle des trois éléments, quand on dit le miracle des trois éléments, c'est que ça va tellement au-delà de l'unité de Dieu et de l'homme que le monde angélique s'y engolfe complètement. S'y engloutit complètement. Et pour le faire, que ça puisse s'épanouir. Que ça puisse s'épanouir de manière à ce que Dieu l'entende dans toutes les dimensions. Tout ce qui existe de son existence et de l'existence de toute chose. Je crois que c'est une chose très très grande de comprendre la révélation du Saint-Père. Le Saint-Père demande, avec Marie aussi, demande dans sa fécondité silencieuse eucharistique, jusqu'à nous, hein, en engendrant de manière efficace et réelle, et incarnée, le regard du Verbe de Dieu, sa face se tourne dans notre corps, comme membre vivant du peuple de Dieu vivant entier, de chacun d'entre nous, et le ciel et le monde angélique est en attente de ça pour pouvoir s'engolfer avec nous dans le mouvement de l'unité de la Jérusalem, de l'Église tout entière, courant vers sa fin, courant vers son accomplissement, courant vers son existence, dans ce qu'elle est réellement dans l'unité et la sainteté. Et l'apostolicité, c'est-à-dire la bonne nouvelle, est proclamée jusque dans la chair du corps originel. C'est quand même extraordinaire, ça, de saisir ça, de s'y engloutir, de l'entendre dans la Sainte Famille Glorieuse, où on s'est abandonné par la raison pour que la transformation se fasse. Lorsqu'on prend possession de son corps originel, dans le Saint-Dessin, la paternité créatrice de Dieu, créant le ciel et la terre et chaque être humain en même temps. Eh bien, c'est quelque chose, comme le Saint-Père a dit, dans cet instant-là, notre corps, à l'intérieur de lui-même, possède une puissance, une dignité, une innocence qui est en affinité avec celle de Dieu. On ne supprime pas un être humain, on est là pour donner la vie avec Dieu. Et cette inscription à l'intérieur de nous, dans la mémoire dont parle le Saint-Père, qui est en dessous et source d'unité de toutes les lumières futures, compte plus, la source compte plus que les accidents. La substance compte plus que les accidents. Donc allons évangéliser la source. Allons évangéliser la mémoire de nos racines. Et dans l'inscription intérieure de notre corps actuel, notre corps va se tourner vers lui-même dans sa source et il va être tout à fait lui-même, un corps humain. Mais en même temps que Dieu le crée, en même temps, il l'inscrit dans le livre de la vie. De la Jérusalem dernière, au moment où elle va être assumée, à la dernière résurrection, à l'intérieur du monde incréé de Dieu. Cette inscription dans le livre de la vie est inscrite, du coup, dans mon corps originel. Et de sorte qu'il y a un flux et un reflux possible entre le corps spirituel venu d'en haut, qui est cette inscription dans le livre de la vie, de l'éternité intérieure et incréée de Dieu, et puis mon corps qui est dans le temps, il y a un flux et un reflux, et ce flux et ce reflux, cet aller-retour continuel de mon corps spirituel, qui est l'émanation de mon inscription dans le livre de vie, et mon corps originel qui est dans le temps d'aujourd'hui. Ce flux et ce reflux, ce mouvement de l'un à l'autre, hein, comme dit l'Église orthodoxe, c'est l'ange qui fait ce passage, c'est aussi la tradition juive, c'est l'ange gardien, l'ange, pas seulement mon ange gardien, mais aussi l'ange de l'humanité tout entière, qui fait ce flux, cet aller-retour du corps spirituel venu d'en haut, inscrit dans le livre de vie. Et mon corps actuel, depuis que si je m'y inscris dedans, cette inscription se fait, et l'ange vient s'y approuver, retourner de là où il est dans la lumière de gloire, et ce mouvement continuel est plus important que le mouvement cardiaque, que le mouvement cérébral. Et évidemment, c'est la réalité de l'homme, ça. L'ange et le corps originel, le corps spirituel de l'humanité tout entière déployée, font plus l'humanité que n'importe quoi d'autre. Et c'est une chose tellement extraordinaire d'entendre la voix, la présence de l'ange qui fait cet aller-retour et qui fait que cette inscription dans le livre de la vie s'inscrit d'en haut par le ministère angélique apostolique de l'Église tout entière dans notre corps. Et notre corps, du coup, n'est plus psychique, c'est un corps qui, à l'intérieur, entend et inscrit, comme Moïse l'a inscrit dans la pierre intérieure, qui inscrit la Bible. Mon corps originel, c'est la Bible. Mon corps originel, c'est aussi l'Évangile, évidemment, dans l'Eucharistie, qui vient inscrire chacune de ces lettres, chacune de ces bonnes nouvelles. Nous sommes, dans le corps originel, nous sommes l'Évangile de Jésus-Christ. Je suis l'Évangile. Je suis la Bible du Père. Je suis l'Évangile du Fils. Je suis la terre où s'inscrit le feu de l'Immaculée Conception dans l'Esprit Saint. Je suis la terre nouvelle du Saint-Esprit, de ce point de vue-là, de la Sainte Famille. Voilà, 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 voilà. voilà, je vais faire l'effort de me laisser évangéliser. Je vais entendre et rentrer, pénétrer, me perdre et laisser vivre l'opération divine évangélique du carême de cette année. De la manière la plus juste qui soit. De la manière la plus juste qui soit. Dans le mélange de Dieu, de l'ange et de ma prière transformante. Parce que là, elle porte le peuple de Dieu tout entier. Et donc, quand je tourne mon visage de cette manière à l'intérieur de ce que nous est demandé par le ciel, la haute Père nous attend, lorsqu'on s'y enfonce, on s'enfonce dans les plus grandes, immenses et grandes profondeurs, les plus profondes qui soient, jusque dans le lieu où l'âme de Joseph a reçu la lumière de gloire. Quand dans la croix glorieuse, Jésus est venu jusqu'à lui, dans son âme déchirée, pour tourner son regard vers le Père à l'intérieur de Saint-Joseph, parce qu'il ne s'est jamais décollé de Saint-Joseph, ce véritable Israël, agréé de Dieu, qu'est Jésus crucifié. Et on va vers écouter cette rencontre prodigieuse. Dans la Pâque, c'est beaucoup plus ça. C'est infiniment plus que la transfiguration, vous savez. Et donc cet effort, ce travail qui nous est demandé, c'est un travail. Un travail, c'est une transformation. Cette transformation, c'est Dieu qui l'opère. Et nous y coopérons tout simplement en nous tournant du bon côté. Dans l'union transformante. Et on ne va pas être dans la prière tout le temps à nous tourner vers la première, deuxième, troisième demeure de la purification. On va se tourner vers l'union transformante de la spontanéité accomplie, vers les trois derniers sauts de l'Apocalypse. Le monde nouveau est devant nous et on y va. Et c'est quoi qu'on en soit digne ou pas digne, ça n'a rien à voir, c'est Dieu, c'est Jésus qui est digne. L'initiale vient Jésus. Donc je reçois Jésus, c'est tout. Et Dieu fait le travail. Et la transformation de notre chair se fait. Et vous rendez compte, tout ce qui se fait dans notre univers et s'inscrivant dans le ciel éternel, assumé désormais dans la Sainte Famille Glorieuse. Toutes ces cellules staminales embryonnaires, toutes ces cellules staminales. Sponsale, toutes ces cellules staminales transglorifiées que nous produisons pour anticiper précisément, pour rendre présent réellement précisément ce point terminal de l'acte pur. C'est un vrai travail de transformer la matière inerte en corps spirituel. Et comme le tabernacle des anges, glorieux eux-mêmes, et de la lumière de gloire, avant que ça n'éclate dans l'unité. C'est par l'unité, cette unité-là, que les démons sont terrassés, parce que leur unité à eux est totale. Et un démon ne chasse pas un autre démon. Voilà pour l'évangile d'aujourd'hui et l'effort qu'on va faire pendant 10 minutes aujourd'hui pour s'écouler merveilleusement dans ce s'écouler en voyant, en regardant, en entendant, en écoutant, en entendant le bruissement d'une délicatesse sans limite infinie, quoi. effervescence, cet écoulement, cette marque, pour que nous devenions en notre corps, en notre matière, en ce qu'il y a de plus petit en nous, en ce qu'il y a de plus petit en nous, que nous devenions l'évangile du Fils et de la Bible du Père, et la terre brûlée de Saint-Esprit, qui est l'acte pur de Marie dans sa fécondité, assumée aujourd'hui. Et c'est nous, ça, les trois en même temps. Et ce qui fait l'unité des trois, c'est la Sainte Famille. C'est sûr. Mais on va se laisser introduire et entendre chaque pas de la Sainte Famille, chaque respiration, chaque battement de cœur de Notre-Dame, de Joseph sur la terre et dans les cieux. L'entendre. Jusqu'à être éperdument épanoui comme une fleur dans cet espace qui est notre monde à nous, dans le carême d'aujourd'hui, pendant ces heures de transformation, pour nous mettre en affinité avec ce qui va se passer au 333e jour du vendredi saint prochain et le samedi saint prochain.